Question. Le voyage submoléculaire dans le temps. Réponse. On pourrait l'exprimer ainsi. Question. Le voyage submoléculaire dans le temps. Réponse. Je vois qu'on a décidé de faire du vaudeville. Question. Non, non, je serai sage, je te promets, vraiment. Continue, je veux vraiment entendre ça. Réponse. D'accord. La partie submoléculaire du médium, ayant absorbé l'énergie de l'image obtenue par la concentration, file à nouveau vers le corps du médium, transportant l'énergie avec elle. Le médium obtient une image, parfois avec un frisson ou un sentiment, et essaie très fort de ne faire aucun traitement des données, mais le décrit tout simplement et instantanément. Il a appris à ne pas remettre en question ce qu'il pense, voit ou sent soudainement et se contente de le laisser entrer aussi intact que possible. Des semaines plus tard, si l'événement imaginé ou senti se produit vraiment, le médium est appelé clairvoyant, ce qui, bien sûr, est vrai. Question. Si tel est le cas, comment se fait-il que certaines prédictions soient fausses, c'est-à-dire qu'elles ne se produisent jamais? Réponse. Dans ce cas, le médium n'a pas prédit l'avenir, mais s'est contenté d'offrir un aperçu de l'une des possibles possibilités observées dans l'éternel instant du maintenant. C'est toujours le sujet de la lecture médiumnique qui a fait le choix. Il a pu tout simplement effectuer un autre choix, un choix qui ne s'accordait pas à la prédiction. L'éternel instant contient toutes les possibles possibilités. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois jusqu'ici, chaque événement est déjà arrivé d'un million de façons. Tout ce qu'il te reste à faire, ce sont des choix de perception. Tout est question de perception. Lorsque tu changes ta perception, tu modifies ta pensée et ta pensée crée ta réalité. Quel que soit le résultat que tu puisses anticiper dans une situation quelconque, il est déjà là pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de le percevoir, de le savoir. C'est ce que signifie la phrase avant même que tu ne poses la question, j'aurais répondu. En vérité, avant même d'être offerte, tes prières reçoivent une réponse. Question. Alors, comment se fait-il que nous n'obtenions pas tout ce que nous demandons au moyen de la prière? Réponse. On en a parlé dans le tome 1. Tu n'obtiens pas toujours ce que tu demandes, mais tu reçois toujours ce que tu crées. La création suit la pensée qui suit la perception. Question. C'est ahurissant. Même si nous en avons déjà parlé, c'est encore ahurissant. Réponse. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il est bon de continuer à en parler. Le fait de l'entendre plusieurs fois te donne une chance d'en pénétrer ton esprit. Alors, ton esprit se désahurit. Question. Si tout est en train d'arriver maintenant, qu'est-ce qui dicte de quelle partie de tout cela je suis en train de faire l'expérience dans mon instant présent? Réponse. Tes choix et ta foi en eux. Cette foi sera créée par tes pensées touchant un sujet en particulier et ces pensées proviennent de tes perceptions, c'est-à-dire de ta façon de voir. Ainsi, le médium voit le choix que tu es maintenant en train de faire à propos de demain et voit cela se dérouler. Mais un véritable médium te dira toujours que ça n'a pas à se dérouler ainsi. Tu peux faire un nouveau choix et altérer le résultat. Question. En somme, je transformerai l'expérience que j'ai déjà faite. Réponse. Exactement. Maintenant, tu comprends. Maintenant, tu comprends comment on vit dans le paradoxe. Question. Mais si tout cela est déjà arrivé, à qui est-ce arrivé? Et si je le rectifie, qui est le moi qui expérimente ce changement? Réponse. Plus d'un toi circule sur la ligne du temps. Tout cela a été décrit en détail dans le tome 2. Je te suggère de le relire. Puis, de combiner ce qu'il y a là-dedans avec ce qu'il y a ici, afin de mieux comprendre. Question. D'accord, c'est bon. Mais j'aimerais parler un peu plus de ces histoires de médiumnité. Beaucoup de gens prétendent être médiums. Comment distinguer les vrais des faux? Réponse. Comme tout le monde est médium, ils sont tous vrais. Ce que tu peux examiner, c'est leur but. Cherchent-ils à aider ou à s'enrichir? Les médiums, les soi-disant médiums professionnels, qui cherchent à s'enrichir, promettent souvent de faire des choses avec leur pouvoir médiumnique. Retour d'un être aimé, fortune et célébrité, et même perte de poids. Ils affirment faire tout cela, mais seulement pour un certain montant d'argent. Ils font même une lecture d'une autre personne, ton patron, ton amoureux, un ami, et te diront tout à son sujet. Ils te demanderont d'apporter quelque chose, une écharpe, une photo, un échantillon de son écriture. et ils peuvent te parler de l'autre, souvent beaucoup. Car chacun laisse une trace, une empreinte psychique, une piste énergétique, et un être véritablement sensible peut la sentir. Mais un intuitif sincère ne t'offrira jamais de faire revenir une autre personne, d'influencer quelqu'un ou de créer quelque résultat que ce soit avec son pouvoir médiumnique. Un véritable médium qui a consacré sa vie au développement et à l'usage de son don sait qu'il ne faut jamais jouer avec le libre arbitre d'un autre et qu'il ne faut jamais envahir les pensées d'un autre ni jamais violer son espace psychique. Question. N'as-tu pas affirmé qu'il n'y avait ni bien ni mal ? Pourquoi tous ces « jamais » tout d'un coup ? Réponse. Chaque fois que je pose un « toujours » ou un « jamais », c'est dans le contexte de ce que, je le sais, tu cherches à accomplir, de ce que tu essaies de faire. Je sais que vous cherchez tous à évoluer, à grandir spirituellement, à retourner à l'unité. Vous désirez faire l'expérience de vous-même en tant que la version la plus grandiose de la vision la plus merveilleuse que vous ayez jamais eue à propos de qui vous êtes. Vous cherchez cela individuellement et en tant que race. Dans mon monde, il n'y a ni bien ni mal, ni obligation ni interdit. Comme je l'ai dit bien des fois, et tu ne brûleras pas dans les feux éternels de l'enfer si tu choisis mal, car il n'existe ni mal ni enfer, à moins, bien entendu, que tu n'y crois. Cependant, des lois naturelles ont été intégrées à l'univers physique, et l'une d'entre elles est la loi de cause à effet. L'une des lois de cause à effet les plus importantes est celle-ci. Tout effet provoqué finit par être ressenti par le soi. Question, qu'est-ce que cela signifie ? Réponse. Tout ce que tu fais vivre à un autre, tu en feras un jour l'expérience. Les membres de votre communauté du Nouvel Âge ont une façon plus colorée de l'exprimer. Question. Ce qu'on envoie nous revient ? Réponse. Tout à fait. D'autres connaissent l'injonction de Jésus. Fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse. Jésus enseignait la loi de cause à effet. C'est ce qu'on pourrait appeler la première loi. Un peu comme la Prime Directive. Ne pas interférer dans l'évolution d'un autre système planétaire donné à Kirk, à Picard et à Janeway, ces personnages de Star Trek. Question. Hey, Dieu est un Trekkie ? Réponse. Tu plaisantes, j'écris la moitié des épisodes. Question. Il vaut mieux que Jean ne t'entende pas. Réponse. Allons, Jean m'a demandé de dire ça. Question. Tu es en contact avec Gene Roddenberry, l'auteur de Star Trek. Réponse. Et Carl Sagan, et Robert Heinlein, et toute la bande ici, en haut. Question. Tu sais, on ne devrait pas plaisanter de la sorte. Cela enlève de la crédibilité à tout ce dialogue. Réponse. Je vois. Une conversation avec Dieu doit être sérieuse. Question. Eh bien, du moins crédible. Réponse. Ce n'est pas crédible que j'ai Jean, Carrie et Robert à côté de moi ? Il faut que je leur dise ça. Eh bien, revenons à la façon dont on peut distinguer un véritable médium d'un faux. Un véritable médium sait et vit la Prime Directive. C'est pourquoi, si tu lui demandes de ramener un être cher disparu il y a longtemps, ou de lire l'aura d'une personne dont tu possèdes un mouchoir ou une lettre, un véritable médium dira « Je suis désolé, mais je ne fais pas cela. Je n'interférerai jamais avec la voie que parcourt un autre, ni n'interviendrai ou ne me mélangerai jamais à celle-ci. Je ne tenterai pas de diriger ou d'influencer leur choix d'aucune façon. » Et je ne te divulguerai pas d'informations de nature personnelle ou privée sur quiconque. Si une personne t'offre de te rendre l'un de ses services, elle est ce qu'on appellerait un escroc qui joue sur ta propre faiblesse et ta vulnérabilité humaine pour te soutirer de l'argent. Question. Mais que penser des médiums qui aident les gens à retrouver un être cher et manquant, un enfant kidnappé, un adolescent qui s'est enfui et qui est trop orgueilleux pour téléphoner à la maison, même s'il veut désespérément le faire ? Ou que penser du cas classique, le médium qui apporte son aide aux policiers afin de repérer une personne morte ou vivante ? Réponse. Bien sûr, ces questions renferment leur propre réponse. Ce que le médium véritable évite toujours, c'est d'imposer sa volonté à un autre. Il n'est là que pour servir. Question. Est-il correct de demander à un médium de contacter les morts ? Devrions-nous tenter d'atteindre ceux qui sont partis avant nous ? Réponse. Pourquoi voudrais-tu le faire ? Question. Pour voir s'ils ont quelque chose à nous dire, à nous raconter ? Réponse. Si quelqu'un, de l'autre côté, a quelque chose à te faire savoir, il trouvera une façon de le faire, sois sans crainte. La tante, l'oncle, le frère, la sœur, le père, la mère, le conjoint et l'amant qui sont partis avant poursuivent leur propre voyage, font l'expérience de la joie complète et se dirigent vers la compréhension totale. S'ils ont, entre autres intentions, de venir à toi afin de constater comment tu vas ou pour t'indiquer qu'ils vont très bien ou autre chose, garde confiance, ils le feront. Alors, reste à l'affût du signe et saisis-le. Ne l'écarte pas comme une création de ton imagination, croyant perdre tes désirs pour des réalités ou une coïncidence. Reste à l'écoute du message et reçois-le. Question. Je connais une dame qui prenait soin de son mari mourant et qui le suppliait, s'il devait partir, de revenir à elle et de lui faire savoir qu'il allait très bien. Il lui a promis d'acquiescer à sa demande et est mort 2 jours plus tard. Moins d'une semaine après, la dame a été réveillée une nuit en ayant le sentiment que quelqu'un venait de s'asseoir sur le lit à côté d'elle. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle aurait juré avoir vu son mari assis au pied du lit, lui souriant. Mais lorsqu'elle a cligné des yeux et regarde à nouveau, il était parti. Plus tard, elle m'a raconté l'histoire, presque convaincue d'avoir halluciné. Réponse : oui, c'est très fréquent. Tu reçois des signes irréfutables, évidents, et tu les ignores, ou tu les écartes, croyant que ton esprit te joue des tours. Tu as le même choix, à présent, avec ce livre. Question : pourquoi faisons-nous cela ? Pourquoi demandons-nous quelque chose, comme la sagesse que renferment ces 3 livres, puis refusons-nous de le croire lorsque nous le recevons ? Réponse : parce que vous doutez de la grande gloire de Dieu. Comme Thomas, vous devez voir, sentir, toucher avant de croire. Mais ce que vous voulez savoir ne peut être vu, senti, ni touché. Cela appartient à un autre domaine. Et vous n'y êtes pas ouvert, vous n'êtes pas prêt. Mais ne vous inquiétez pas. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Question. Selon tes propos, pour revenir à la ligne d'interrogation originale, nous ne devons pas nous adresser à un médium ni assister à une séance en cherchant à entrer en contact avec ceux qui sont de l'autre côté. Réponse. Je ne dis pas que tu doives ou non faire quoi que ce soit. Je ne suis tout simplement pas certain de ce que ça donnerait. Question. Eh bien, supposons que tu aies quelque chose à dire à l'autre plutôt que quelque chose à entendre de sa part. Réponse. T'imagines-tu que tu puisses le dire et qu'il ne puisse pas l'entendre ? Le simple fait de penser à un être se trouvant de l'autre côté, comme tu dis, fait s'envoler vers toi la conscience de cet être. Tu ne peux avoir de pensée ni d'idée à propos d'une personne qui est décédée, comme tu dis, sans que l'essence de cette personne n'en devienne tout à fait consciente. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un médium pour obtenir une telle communication. L'amour est le meilleur médium de communication. Question. Ah, mais que dire de la communication bilatérale ? Un médium peut-il être utile dans ce cas ? Une telle communication est-elle seulement possible ? Est-ce de la foutaise ? Est-ce dangereux ? Réponse. À présent, tu parles de la communication avec les esprits. Oui, une telle communication est possible. Est-elle dangereuse ? Presque tout est dangereux si tu as peur. Ce que tu crains, tu le crées. Mais il n'y a vraiment rien à craindre. Les bien-aimés ne sont jamais loin de toi, jamais plus loin qu'une pensée. Ils seront toujours là si tu as besoin d'eux, prêt à te procurer conseil ou réconfort. S'il existe chez toi un degré élevé de stress à propos du bien-être d'un être cher, celui-ci t'enverra un signe, un signal, un petit message te permettant de savoir que tout va bien. Tu n'auras même pas à l'appeler, car les âmes qui t'ont aimé dans cette vie-ci sont attirées vers toi, s'envolent vers toi, dès qu'elles sentent le moindre trouble ou le moindre déséquilibre dans ton champ aurique. Dès les premières occasions, lorsqu'elles se familiarisent avec les possibilités de leurs existences nouvelles, elles fournissent aide et réconfort à ceux qu'elles aiment. Et tu sentiras leur présence réconfortante si tu leur es vraiment ouvert. Question. Alors les récits que nous entendons à propos de ces gens qui auraient pu jurer qu'un être cher se trouvait dans la pièce pourraient être vrais ? Réponse. Très certainement. Quelqu'un pourrait même sentir le parfum ou l'eau de cologne de l'être cher ou une bouffée de cigare qu'il fumait, ou entendre murmurer une chanson qu'il avait l'habitude de fredonner. Ou bien, de but en blanc, un de ses biens personnels peut soudainement apparaître sans raison. Un mouchoir, un portefeuille, un bouton de manchette ou un bijou. On le trouve sur le coussin d'un fauteuil ou sous une pile de vieux magazines. Le voilà. Il peut aussi s'agir d'une image, d'une photo prise à un moment particulier. À l'instant même où cette personne te manquait et où tu pensais à elle avec tristesse, te remémorant sa mort. Ces choses n'arrivent pas par hasard. Ces objets ne se contentent pas d'apparaître juste au bon moment, par hasard. Laisse-moi te dire ceci. Aucune coïncidence n'existe dans l'univers. Tous ces phénomènes sont très courants, vraiment courants. Maintenant, revenons à tes questions. As-tu besoin d'un soi-disant médium ou channel pour communiquer avec des êtres qui sont hors du corps? Non. Est-ce parfois utile? Oui. Tout dépend encore une fois du médium et de sa motivation. Si quelqu'un refuse de travailler avec toi, ou de faire toute forme de travail de channeling ou de médiation, sans exiger un fort dédommagement, éloigne-toi en courant. Il ne désire peut-être que ton argent. Ne sois pas surpris si tu deviens mordu au point de retourner le voir à maintes reprises, pendant des semaines ou des mois ou même des années, à mesure qu'il joue sur ton besoin ou ton désir de contact avec le monde des esprits. Une personne qui se contente de venir en aide, tout comme l'esprit, ne réclame rien en retour, sinon ce qui s'avère nécessaire afin de poursuivre son travail. Si un médium exprime l'intention de t'aider, fais en sorte d'apporter en retour toute l'aide possible. Ne tire pas avantage d'une générosité aussi extraordinaire de l'esprit en donnant peu ou en offrant rien, quand tu sais pouvoir faire davantage. Cherche à savoir qui sert véritablement le monde, qui cherche vraiment à partager sagesse et connaissances, intuition et compréhension, attention et compassion. Récompense ces gens avec largesse. Accorde-leur le plus grand honneur. Donne-leur la plus grande somme d'argent, car ce sont les messagers de la lumière.